Nucléaire, la fabrique de l'oubli. Montage radiophonique en plusieurs épisodes. À travers romans, témoignages, archives sur le nucléaire.
On a perdu le sens de la mesure. La technologie nous a rattrapés. On n'est plus humain.
Immersion en milieu radioactif, territoire où la catastrophe semble permanente.
Le nucléaire ne peut se développer que s'il est dirigé par des gens non consciencieux, incompétents et irresponsables.
Épisode 5, les liquidateurs, les hommes jetables du nucléaire. Liquidateur, en russe, liquidatori, est le nom donné en ex-URSS au personnel civil et militaire intervenu immédiatement sur les lieux de la catastrophe de Tchernobyl le 26 avril 86 au matin, mais aussi aux équipes impliquées dans la consolidation et l'assainissement du site à plus long terme, jusque dans les années 90. Ce nom désigne aussi par extension toutes les personnes, tant civiles que militaires, intervenant après un accident nucléaire majeur, malgré les très hauts niveaux de radiation qu'ils peuvent subir. On a reparlé de liquidateurs pour désigner les dizaines de techniciens et pompiers restés sur place après les accidents nucléaires de Fukushima pour refroidir coûte que coûte les réacteurs.
La prétendue liquidation de l'accident de Fukushima Daiichi est une insupportable et effarante répétition de celle de Tchernobyl. Les mêmes mesures à la fois dérisoires, ubuesques et contradictoires, les mêmes robots qui ne marchent pas, les mêmes défilés d'hommes pataugeant autour de la centrale et mourant dans l'ambulance pour l'hôpital.
La bureaucratie soviétique, confrontée à la catastrophe de Tchernobyl au printemps 1986, formula la première l'idée selon laquelle on pourrait liquider les conséquences d'un accident nucléaire. Cette phase d'urgence fut présentée comme la première étape de la résolution d'une crise nucléaire. Les liquidateurs durent parer au pire, empêcher que la situation ne s'aggrave, la stabiliser. L'armée fut chargée de conduire et de mettre en scène une guerre contre la radioactivité. 800 000 personnes furent mobilisées dans un grand élan patriotique, sacrifiées. Ils durent éteindre l'incendie, déblayer les débris radioactifs, monter sur le toit du réacteur, creuser un tunnel, tenter d'arrêter le magma en fusion, arroser les maisons, tuer les animaux, enterrer les forêts, déplacer la terre, confiner l'accident sous des tonnes de béton. Cette victoire sur la radioactivité permit et permet encore aujourd'hui aux États et aux organisations internationales de mentir sur les conséquences de l'accident. Cette mobilisation empêcha sans doute une deuxième explosion du combustible nucléaire, mais pas une contamination de l'ensemble de l'Europe. Quant au magma, sous son sarcophage, il continue à être actif et à laisser échapper ses vapeurs au travers d'énormes fissures.
Une catastrophe nucléaire ne se liquide pas. De Tchernobyl à Fukushima, c'est contre cette vérité que s'organisent les différentes institutions en charge des populations et des territoires contaminés. Bien sûr, le Japon de 2011 n'est pas l'URSS de 1986, mais l'État japonais, son autorité de sûreté nucléaire, et l'Agence internationale de l'énergie atomique orchestre le mensonge. Les ingénieurs d'Areva, présents sur le site de la centrale de Fukushima Daiichi au moment du séisme, nous donnent la mesure des progrès accomplis depuis Tchernobyl pour maîtriser les catastrophes. Ils partent, laissant à leurs collègues japonais le soin de prendre en main la situation. Cette fois-ci, la catastrophe n'est pas prise en charge par l'armée, mais par les entreprises. TEPCO, l'exploitant, Toshiba et Hitachi, les constructeurs de la centrale. Elles sous-traitent les basses œuvres aux organisations mafieuses du bâtiment. À Tchernobyl, la mise en scène fut celle de l'extraordinaire. À Fukushima, celle de l'ordinaire. Tchernobyl aurait été une bataille, tandis que Fukushima ne serait qu'une gigantesque opération de maintenance.
On sait peu de choses des hommes envoyés sur place faire le sale boulot. Les 50 de Fukushima sont les premiers à approcher des réacteurs éventrés. Présentés comme des héros sacrifiés pour la patrie et le monde, ce sont les seuls liquidateurs dont on a entendu parler. Les 17 780 autres qui ont suivi, d'après les chiffres officiels de TEPCO en décembre 2011, n'ont pas eu cet honneur. Ils se contentent de mourir du travail, comme cet homme décédé le 6 octobre des suites d'un malaise, après 46 jours de contrat. TEPCO est formel. Il a reçu une dose inférieure à la limite annuelle autorisée, sans mentionner que la dose autorisée est opportunément passée de 20 à 250 millisieverts le 15 mars. Il est dès lors difficile d'imaginer que la radioactivité puisse être à l'origine de son décès, déclare la firme en guise de condoléances. Officiellement, les morts sont rares, mais nous savons déjà que les travailleurs sont nombreux à disparaître des registres d'embauche. Le 20 juin, TEPCO fait mine d'avoir perdu la trace de 69 ouvriers. Un mois plus tard, une chaîne de télé parle de 198 disparus des listes. Le 15 décembre, le Fukushima Daiichi en évoque 840. Difficile d'en savoir plus, puisque personne n'a le droit de parler, comme le stipule une petite clause en bas du contrat.
Boîte d'intérim, petite annonce avec salaire alléchant, contrat de journalier. L'ambiance soviétique semble loin. À Fukushima, la banalité de l'exploitation capitaliste pousse les liquidateurs au front. Ils vont au chagrin, la peur au ventre et la mort dans l'âme, presque comme d'habitude. Ce sont les travailleurs habituels du nucléaire qui sont massivement embauchés. Parmi eux, l'immense majorité est une main-d'œuvre corvéable, sans domicile, voire clochardisée, et issue des castes les plus méprisées du Japon. Descendant des communautés Eta et Inin, littéralement pleins de souillures et non humains, les Burakamin, gens des hameaux spéciaux, sont traditionnellement tenus à l'écart. Ils remplissent les tâches liées à la mort, au sang, à l'impureté. Même si leur statut de paria a officiellement disparu en 1871, ils constituent, aujourd'hui encore, un sous-prolétariat adapté à l'industrie nucléaire. Au Japon, pays de l'alliance de la tradition et de la modernité, la mort ou la disparition de ces travailleurs n'est pas un problème politique, tout comme celle des liquidateurs de Tchernobyl en Biélorussie ou en Ukraine. Il est donc déjà prévu d'oublier les liquidateurs de Fukushima.
Pensez alors à toute autre chose. Ça vous paraîtra bizarre, mais à cette époque, j'étais justement en instance de divorce. Soudain, on vient me chercher. On me remet une convocation et on m'annonce qu'une voiture attend en bas. Une sorte de fourgonnette spéciale, comme en 1937. Là aussi, on surprenait les gens la nuit, dans leur lit tout chaud, et on les amenait. Par la suite, ce schéma ne marchait plus. Les femmes n'ouvraient pas la porte ou prétendaient que leur mari n'était pas là. Elles refusaient même de prendre les convocations. Alors ils ont changé de tactique. Ils allaient voir les gens au travail et, ou les coincer dans la rue ou dans les cantines des usines pendant la pause. Comme en 37. Mais moi, à l'époque, j'étais presque fou. Ma femme me trompait et tout le reste n'avait plus d'importance. Je me suis installé dans cette fourgonnette. Les deux types venus me chercher étaient en civil. Mais leur maintien était clairement militaire. Ils m'encadraient comme s'ils avaient peur que je ne cherche à m'enfuir. M'asseyant dans la voiture, j'ai pensé, je ne sais pourquoi, aux astronautes américains partis pour la Lune. À leur retour, l'un serait devenu prêtre et l'autre aurait perdu la raison. J'ai lu quelque part qu'il leur avait semblé voir des villes et les traces d'hommes. Des bribes d'articles de journaux m'ont traversé l'esprit. Nos centrales nucléaires ne représentent aucun risque, on pourrait les construire même sur la place rouge, elles sont plus sûres que des samovars. Mais ma femme m'avait quitté, je ne pensais pratiquement qu'à cela. J'ai tenté de me suicider à plusieurs reprises. Nous sommes allés au même jardin d'enfants, à la même école, au même institut. Je vous ai prévenu, et je n'ai rien de bien héroïque à raconter. Rien pour la plume d'un écrivain. Je me disais que nous n'étions pas en guerre. Pourquoi devrais-je prendre des risques pendant que quelqu'un couchait avec ma femme? Pourquoi moi et pas lui? En toute honnêteté, je n'ai pas vu de héros là-bas. Tout juste des fous qui n'en avaient rien à foutre de leur vie. Il y avait aussi pas mal de crâneurs, mais ce n'était pas ce dont nous avions besoin. J'ai obtenu des diplômes d'honneur et des remerciements. Mais c'était parce que je n'avais pas peur de mourir. Parce que je m'en foutais. Ça me semblait même une solution. On m'aurait enterré avec les honneurs sur le compte de l'État. Là-bas, on entrait dans un monde fantastique. Un mélange de fin du monde et d'âge de pierre. Je percevais tout d'une manière particulièrement aiguë, épidermique. Nous vivions dans des tentes au milieu de la forêt, à 20 bornes du réacteur, comme des partisans. On appelait d'ailleurs ainsi les réservistes qui avaient été convoqués comme moi. Des hommes entre 25 et 40 ans, beaucoup avec une éducation supérieure ou technique. Moi j'enseigne l'histoire. En guise de fusil, nous avions des pelles. Nous retournions les décharges, les potagers. Dans les villages, les femmes nous regardaient et se signaient. Nous portions des gants, des masques, des tenues de camouflage. Le soleil était chaud. Nous apparaissions dans les potagers comme des diables. Elles ne comprenaient pas pourquoi nous retournions leurs parcelles, arrachant les plants d'ail et les choux alors qu'ils semblaient parfaitement normaux. Les grands-mères se signaient et criaient « Petit soldat, est-ce la fin du monde ?» Dans une maison, le four était allumé et une bonne femme y faisait frire du lard. On a approché le dosimètre. Ce n'était pas un four, mais un véritable petit réacteur. Ils nous ont invités. « Restez manger un morceau, les gars !» Nous avons refusé. Mais eux, « Nous allons trouver de la vodka. Asseyez-vous. Racontez. » Mais que pouvions-nous bien raconter ? Près du réacteur, les pompiers marchaient directement sur le combustible mou. Ils luisaient et ils ne savaient même pas ce que c'était. Alors nous autres, que pouvions-nous savoir? Nous y allions. Nous avions un seul dosimètre pour une unité entière. Et la radiation n'était jamais la même à des endroits différents. L'un de nous travaillait là où il n'y avait que 2 Röntgens et un autre là où il y en avait 10. D'un côté régnait l'arbitraire, comme dans les camps, et de l'autre la peur. Moi, je voyais tout comme de l'extérieur. Un groupe de scientifiques est arrivé en hélicoptère. Ils portaient des vêtements spéciaux de caoutchouc, des bottes hautes, des lunettes de protection, comme pour un débarquement sur la Lune. Une vieille femme s'est approchée de l'un d'eux. « Qui es-tu ? » « Un scientifique. »« Un scientifique ! Voyez comme il est affublé. Et nous alors ?» Elle l'a poursuivi avec un bâton. Je me suis dit à plusieurs reprises que l'on finirait par faire la chasse aux savants pour les noyer, comme au Moyen-Âge. J'ai vu un homme dont on enterrait la maison devant ses yeux. On enterrait des maisons, des puits, des arbres. On enterrait la terre. On la découpait. On en enroulait des couches. Je vous ai prévenu, rien d'héroïque. Nous rentrions tard le soir parce que nous travaillions 12 heures par jour, sans congé. Nous ne nous reposions que la nuit. Nous retournions donc au campement en véhicule blindé lorsque nous avons vu un homme traverser le village vide. On s'est rapproché. C'était un jeune gars avec un tapis sur les épaules. Une gigoulie était garée près de là. Le coffre plein de télé et de postes téléphoniques. Nous avons fait faire demi-tour à notre blindé pour éperonner la voiture. Elle s'est pliée en accordéon comme une boîte de conserve. Personne n'a branché. Nous enterrions la forêt. Nous scions les arbres par tronçons d'un mètre et demi. Les entourions de plastique et les balancions dans une énorme fosse. Je ne pouvais pas dormir la nuit. Dès que je fermais les yeux, quelque chose de noir bougeait et tournait. Comme si la matière était vivante, des couches de terre vivantes, avec des insectes, des scarabées, des araignées, des vers. Je ne savais rien sur eux. Je ne savais même pas le nom de leur espèce. Ce n'étaient que des insectes, des fourmis. Mais ils étaient grands et petits, jaunes et noirs, multicolores. Un poète a dit que les animaux constituaient un peuple à part. Je les tuais par dizaines. Centaines, milliers, sans savoir même le nom de leurs espèces. Je détruisais leurs antres, leurs secrets. et les intérêts. L'écrivain Léonid Andreïev, que j'aime beaucoup, a une parabole sur Lazare qui a regardé derrière le trait de l'interdit. Après cela, il est devenu étranger parmi les siens, même si Jésus l'a ressuscité. C'est assez, peut-être. Je comprends que vous soyez curieuse. Ceux qui n'ont pas été là-bas le sont tous. Mais c'était le même monde d'hommes. On ne peut pas vivre tout le temps dans la peur, c'est impossible. Un peu de temps passe et la vie ordinaire reprend le dessus. Les hommes buvaient de la vodka, jouaient aux cartes, draguaient les femmes, faisaient des gosses, parlaient beaucoup d'argent, mais ne travaillaient pas là pour l'argent. Peu d'entre eux le faisaient par intérêt. Ils travaillaient parce qu'il le fallait. On nous l'avait ordonné, et ils ne posaient pas de questions. Ils rêvaient de promotion, ils trichaient, volaient en espérant jouir des privilèges promis. Un appartement, sans attendre son tour, l'inscription d'un enfant à la crèche, la possibilité d'acheter une voiture. Chez nous, un seul homme avait vraiment peur. Il craignait de quitter la tente, dormait avec sa combinaison de caoutchouc. Un lâche. Il a été exclu du parti. Il criait « Je veux vivre !» Tout était mélangé. J'ai rencontré des femmes venues de leur plein gré. Elles avaient envie d'être là. On les dissuadait en leur expliquant qu'on avait besoin de conducteurs, de métalliers, de pompiers. Mais elles venaient tout de même. Tout était mélangé. Des milliers de volontaires et on traquait tout de même les réservistes avec une fourgonnette spéciale. Des détachements d'étudiants, des versements au fonds de solidarité avec les victimes, des centaines de gens qui proposaient bénévolement leur sang ou leur moelle épinière. Et en même temps, on pouvait tout acheter pour une bouteille de vodka. Un diplôme d'honneur, un congé pour rentrer à la maison. Le président d'un kolkhoz apportait une caisse de bouteilles aux dosimétristes pour qu'il n'inscrive pas son village sur la liste des lieux interdits, alors que son collègue d'un autre patelin apportait une caisse semblable, justement pour obtenir l'évacuation, parce qu'on lui avait déjà promis un 3 pièces à Minsk. Personne ne contrôlait les mesures de radiation, le bordel russe habituel. C'est ainsi que nous vivons. On rayait des listes, on vendait des choses. D'un côté, c'était dégoûtant, mais de l'autre... Allez tous vous faire foutre. On nous a envoyé des étudiants. Ils déplantaient la roche dans les champs, ramassaient le foin en tas. Quelques jeunes couples se trouvaient parmi eux. Ils se tenaient encore la main. C'était difficile à supporter. Tous les jours, nous recevions les journaux. Je me contentais de lire les titres. Tchernobyl, lieu d'exploit. Le réacteur est vaincu. La vie continue. Notre Zampolite, l'adjoint politique de notre unité, organisait des réunions et nous disait que nous devions vaincre. Mais vaincre qui ? L'atome, la physique, l'univers ? Chez nous, la victoire n'est pas un événement mais un processus. La vie est une lutte. Il faut toujours surmonter quelque chose. C'est de là que vient notre amour pour les inondations, les incendies, les tempêtes. Nous avons besoin de lieux pour manifester du courage et de l'héroïsme. Un lieu pour y planter un drapeau. Le Zampolite nous lisait des articles qui parlaient de conscience élevée et de bonne organisation. Du drapeau rouge qui flottait au-dessus du 4e réacteur quelques jours après la catastrophe. Il flamboyait, au propre. Un mois plus tard, il était rongé par la radiation. Alors on a hissé un nouveau drapeau. Et un mois plus tard, un troisième. J'ai essayé de me représenter mentalement ces soldats qui grimpaient sur le toit, des condamnés à mort. Le culte païen soviétique, me direz-vous. Un sacrifice humain. Mais à l'époque, si l'on m'avait donné ce drapeau, j'y serais allé moi-même. Je suis incapable de vous expliquer pourquoi. Je ne craignais pas la mort. Ma femme ne m'a même pas écrit. Pas une seule fois en 6 mois. Je vais vous raconter une histoire drôle. Un prisonnier évadé se cache dans la zone de 30 km autour de Tchernobyl. On finit par l'attraper, on le fait passer au dosimètre, il brille à un point tel qu'il est impossible de le mettre en prison ou à l'hôpital. Mais on ne peut pas le laisser en liberté non plus. Vous riez pas ? Je suis arrivé lorsque les oiseaux faisaient leur nid et je suis reparti lorsque les pommes gisaient sur la neige. Nous n'avons pas pu tout enterrer. Nous enterrions la terre dans la terre. avec les scarabées, les araignées, les larves, avec ce peuple différent, avec ce monde. Voilà la plus forte impression que j'ai gardée, ce petit peuple. Je ne vous ai pas raconté grand-chose, des bribes éparses. Je me souviens d'une autre nouvelle d'Andreïev, lors de la Passion. Jésus passe près de la maison d'un habitant de Jérusalem qui a une rage de dents. Le Christ tombe en portant la croix et gémit. L'homme voit tout et entend tout. Cela se passe devant chez lui. Mais à cause de sa rage de dents, il ne sort pas dans la rue. 2 jours plus tard, lorsque sa névralgie a cessé, on lui raconte que le Christ est ressuscité. Et il pense alors, « J'aurais pu assister à tout cela, mais j'avais mal aux dents. » C'est peut-être toujours ainsi. Mon père a défendu Moscou en 1941, mais il n'a compris qu'il avait participé à un très grand événement que des dizaines d'années plus tard, grâce aux livres et aux films. Quant à ses souvenirs, j'étais dans une tranchée, je tirais, une explosion m'a enseveli, des infirmiers m'ont tiré de là, à moitié mort. C'est tout. Moi, au moment de Tchernobyl, ma femme venait de me quitter.
Amour, 28 avril 86, je suis encore dans le réacteur. Malgré que je désapprouve le fait de t'écrire, chose lamentable, il fallait signer le mot sur un bout de papier. La vie n'est plus la même depuis la catastrophe, et les industries les plus polluantes ont été délocalisées. J'essaie tant bien que mal de garder le sourire, et de ne pas me laisser aller. Dis aux enfants que leur papa reviendra très vite. Je les aime. Le silence est insupportable, l'espace manque. Et la démographie décroît à vitesse grand V, mais j'y crois encore. J'y crois encore. Toujours des débris, encore chaque jour, une mission. Tout détruire. Les rayons gamma affolent ma chair, la chair est plus importante que l'eau. Le plus important sûrement, c'est de croire. Que l'on reviendra un jour. Alors si possible, mon voisin, c'est que sans doute, nous nous rejoindrons très vite.
Le plus frappant, pour qui observe l'arsenal des moyens déployés par l'industrie nucléaire au moment de Fukushima,
ce moment désormais appelé à durer très longtemps,
c'est l'extraordinaire contraste entre le discours officiel de ses promoteurs et la réalité que l'on peut constater empiriquement sur le terrain. Le nucléaire joue toujours sur une image d'une industrie de pointe, portée par une technologie de haut niveau. C'est le fleuron du progrès scientifique, la fine fleur de la virtuosité technique.
Dans la réalité, tout le contraire. Infrastructure vieillissante, mentalité moyenâgeuse. La centrale s'effiloche. Le prétendu sommet de la technologie humaine se révèle une vulgaire affaire de plomberie.
Il y a quelque chose qui cloche là-dedans. J'y retourne immédiatement.
Sur place, sur les photos que l'opérateur lâche au compte-gouttes, des tas de câbles et de raccords, de tuyaux éventrés, marabouts, bouts de ficelle. Partout, on installe des plaques de plomb et d'acier.
Quelle technicité! Quelle maîtrise!
On est obligé de recourir à de la résine, de la sciure de bois et du papier journal déchiqueté pour colmater les fuites. À la brouette et au râteau pour déblayer les décombres.
Pour nous sauver, rien de tel qu'un couvercle, une bâche, une tente, ou comme à Tchernobyl, un sarcophage. Qu'on recouvre tout ça et qu'on n'en parle plus.
sous ses grands airs, toute la camelote navrante du nucléaire.
Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement.
Les liquidateurs ont été sacrifiés et trahis au moins 4 fois par ceux qu'ils ont sauvés. Premièrement, ils n'ont pas été suffisamment informés, ni protégés. Deuxièmement, le prix qu'ils ont payé en vie et en santé, et qu'ils continuent de payer, n'est pas reconnu. Troisièmement, ils ne sont pas soignés. Quatrièmement, ils sont oubliés par l'opinion, tels des rebuts de l'histoire. Le graphite et l'uranium, répandus sur le toit de la centrale de Tchernobyl après l'accident, irradiaient jusqu'à 20 000 Röntgen par heure. Un morceau de graphite, tenu dans les mains, transmettait en une seconde et demie la dose accumulée pendant une vie entière dans des conditions de radioactivité naturelle. Selon les estimations les plus récentes, 800 000 à 1 million d'hommes jeunes, appelés liquidateurs, en provenance de toute l'URSS, ont été jetés contre le réacteur exposé pour éteindre l'incendie, qui a duré 10 jours. Pour enfermer dans un sarcophage, improvisé dans des conditions de radioactivité terrifiantes, un reste d'environ 200 tonnes de combustible nucléaire fondu, figé comme une lave et éparpillé dans un labyrinthe surréel de ruines de béton et d'acier tordu, et nettoyer les territoires pollués, c'est-à-dire les champs, les routes, les maisons des villages, les espaces arrosés par les pluies radioactives. Ils ont combattu les radionucléides à main nue, avec des pelles, des lances à eau. Le tonneau des Danaïdes, l'absurde, le temps saturnien de la mythologie antique. Ces suppliciés, exposés à des niveaux de radioactivité énormes, officiellement non reconnus, sont malades. Des dizaines de milliers sont morts, et d'autres continuent à mourir. On se demande souvent pourquoi un nombre aussi énorme d'hommes, une véritable armée, a été employé pour intervenir lors d'un accident dans une centrale nucléaire. Les accidents, statistiquement prévisibles, ne constituent-ils pas un risque inhérent à l'activité industrielle? L'absence de moyens de protection à la mesure de la dimension et de la durée prolongée de l'événement radiologique a déterminé à Tchernobyl un choix de logique de guerre. Ne pouvant assurer une protection efficace contre un tel niveau de radioactivité, les autorités soviétiques ont choisi de répartir l'exposition en un nombre le plus large possible d'intervenants, dans un temps qui se comptait, selon les risques, en minutes, parfois même en secondes. Beaucoup ont reçu des doses d'irradiation dépassant les limites des compteurs censés les mesurer. Ce calcul est une vue abstraite de l'esprit, sans aucune prévision ni préparation, à laquelle il faut ajouter l'improvisation des autorités paniquées, plus leur mépris de la personne humaine, et la liberté pratiquement illimitée du pouvoir totalitaire de mobiliser les masses au service de la cause. Une série de circonstances propices pour les détenteurs du pouvoir. Les appelés, privés de protection et d'information, ont été utilisés pour colmater avec leur corps cette brèche ouverte dans la présomption technologique moderne. C'est le dernier luxe historique qu'a pu se payer et nous payer pour notre protection le système soviétique. On peut se demander comment se débrouillera le monde libre lors d'un prochain accident majeur en Occident estimé probable, statistiquement, par l'AIEA elle-même. 20 ans se sont écoulés. L'AIEA, l'UNSER, l'OMS, ont de façon incompréhensible exclu les liquidateurs de leurs statistiques, toujours limitées à 32 morts, voire 40, après l'accident de Tchernobyl. Aucun suivi, aucune recherche épidémiologique de cette cohorte de 800 000 hommes exposés à des doses énormes de radioactivité. Couverts par le silence de la science officielle, les États nucléaires, la communauté internationale, regardent ailleurs et attendent simplement que les liquidateurs disparaissent, sans faire de vagues. On ne peut pas dire qu'on les a oubliés, car oublier quelqu'un, c'est reconnaître qu'il a un jour existé. Non, dispersés, anonymes, sur les 11 fuseaux horaires de l'ex-Union soviétique, Ils sont exclus de la communauté humaine. Ils n'existent pas. Eux qui nous ont sauvés et qui demandaient simplement un traitement humain.
Avec leurs masques, les liquidateurs de Tchernobyl avaient l'air de chiens humains, la face recouverte d'une muselière de cuir. Les vêtements kaki lestés de plomb, les énormes lunettes noires et les moufles épaisses leur donnaient un air sombre et un peu rustre. Ceux de Fukushima, dans leur belle tenue blanche, parcourue de lignes bleues, ressemblent à des elfes en comparaison. Gants bleus azur, visière transparente et casque jaune vif complètent le tableau. Ils flottent comme des flocons sur le désastre, silhouette blanche parée pour toutes les intempéries. La réalité est bien différente de ce que les images veulent faire croire. C'est de la mise en scène, me dit Monsieur K.
En vérité, les liquidateurs sont harnachés comme des bêtes. Dès qu'on sort, on est complètement recouvert, scotché et masqué. Appareil respiratoire sur le visage, avec filtre à cartouche de charbon. Il fait chaud, poisseux même. On respire difficilement. Les yeux sont rivés sur les dosimètres. Les bottes de cuir couinent à chaque pas. De temps en temps, notamment aux alentours des flaques, on les enrobe de sacs plastiques, fixés par du ruban adhésif. C'est comme si on marchait dans un sac de pommes de terre, ou un sac poubelle. On glisse. On dérape, on se sent patate soi-même, vaguement déchet. Le masque en particulier est exaspérant. Manque d'oxygène, tête comprimée, jugulaire trop serrée. Il provoque des maux de tête épouvantables et des nausées. Il a été conçu pour offrir une vision périphérique, mais en fait, le regard glisse toujours sur le côté, à la recherche du compteur GGR. Quand il fait trop chaud, beaucoup d'hommes le retirent, au mépris du danger. C'est aussi plus pratique pour se parler. Avec l'uniforme de protection, on ne peut plus boire ni aller aux toilettes.
Réduits à une autonomie de scaphandre, ils sont devenus des hommes-boîtes. Parfois, ils vont au bord du rivage et ils regardent la mer. Ils imaginent. Aux alentours, les poissons et même les requins. Ils voient au-dessus de leur tête la ronde des oiseaux blancs en cercle concentrique. Leur boulot ? Réparer le système de refroidissement. Et stabiliser les piscines. Ils tirent des câbles pour rétablir l'électricité, dégagent les débris encombrant les sites, aspergent les réacteurs à la lance à eau, réparent, colmatent, remplacent, entretiennent. Serviteurs plus que collaborateurs, ils vont où on leur dit d'aller. Ils font ce qu'on leur dit de faire. Ils liquident. Rotation de 30 minutes à 1 heure en fonction du taux de radiation. Le tout dans la succession des répliques. Violente, régulière. Certains ont un costume de protection du Pontivec, qui ne protège pas des radiations, mais peut barrer la route à des particules de moins d'un micron, afin qu'elles n'entrent pas en contact avec la peau. D'autres ont un Scott Air Pack, ergonomique, capitonné, rembourré à la ouate. Il est scotché sur les hanches et possède un harnais de Kevlar, avec lombaire renforcé, comme un parachute. Car c'est clair. Ces gens sont littéralement parachutés dans un milieu hostile.
Toute la journée, c'est la douche des radiations. Mais le pire est pour ceux qui vont à l'intérieur des bâtiments, où la radioactivité atteint des sommets. Tout le monde a peur de s'approcher des réacteurs, mais faut bien y aller quand même.
Monsieur K arrête son récit quelques minutes pour allumer une cigarette. La pénombre commence à s'installer dans le vieux café du Hainaut. Qui n'est éclairé que par un plafonnier défraîchi et quelques appliques laissant filtrer une lumière jaunâtre. Il commande un autre verre d'eau. Ses yeux brillent d'une étrange lueur lorsqu'il évoque les réacteurs.
Un réacteur ? C'est immense. En surface, on ne voit que des structures délabrées, tripes d'acier à l'air libre. Mais en dessous, ce sont des cavernes de câbles, des enchevêtrements de tuyaux soufflés par les explosions et tordu par les flammes, une jungle de ferraille et de débris. Des galeries sans fin, encombrées de fils et de cordes, le tout noyé dans de l'eau de mer, l'odeur du sel et de la sueur, la peur. Il y a des trous remplis d'eau, faut faire attention où on met les pieds. Il y a des câbles qui pendent comme des lianes,
Il faut constamment lever la tête. Prendre garde vers le bas, être aux aguets sur le côté. La mobilité est réduite, la vision parfois quasi nulle. De temps en temps, les masques glissent et tombent, et là, c'est déjà trop tard. On les remet. On continue. Les débris radioactifs sont partout. L'eau. Le plus souvent, pas de lumière. Une sorte de lueur crépusculaire, jaunâtre. On étouffe. Les lampes sont les yeux. Les jauges, les oreilles. Le bruit des respirations est amplifié par les masques. On entend son cœur qui bat distinctement.
Monsieur K s'arrête un moment pour reprendre son souffle et boire un verre d'eau. Je lui demande s'il n'a pas peur de travailler dans un tel environnement. Il hésite, il ne sait pas trop.
On dit que c'est dangereux, mais si je refuse, j'aurai plus de travail. Ce qui m'importe, c'est ce que je peux manger demain ou dans une semaine.
Là, c'est clair. Il continue.
En combinaison rembourrée, avec chacun sa propre bouteille d'oxygène, un cylindre permettant de tenir 30, 45 ou 60 minutes, comme un nageur, on entre dans des endroits sombres, gluants, étouffants. On porte des kilos de matériel, on tire des câbles, on pousse des parois. Certains vont dans des endroits où on ne peut rester que 2 à 3 minutes, pour ouvrir une valve à la main par exemple, confirmer un niveau d'eau ou tenter de détecter une fuite visuellement. D'autres encaissent en 15 minutes des doses démentielles, celles qu'un travailleur du nucléaire est normalement autorisé à subir en 5 années pleines.
Monsieur K s'arrête, il n'en peut plus. Les conditions de travail sont chaotiques, conclut-il. Les liquidateurs sont exposés en permanence. Il faut une concentration extrême, l'épuisement est palpable, ainsi que la tension nerveuse. Des gens vomissent, d'autres sont transportés à l'hôpital. Il va s'en aller, il en a assez maintenant, le récit l'a épuisé. Mais il fallait le faire, il l'a fait. Il me remercie. Avant de partir, il a cette phrase.
Dites-leur bien. Pleurer ne sert à rien. Si nous sommes en enfer maintenant, tout ce que nous pouvons faire, c'est de remonter à tâtons vers la surface.
Nucléaire, la fabrique de l'oubli. Montage radiophonique en plusieurs épisodes. À travers romans, témoignages, archives sur le nucléaire.
On a perdu le sens de la mesure. La technologie nous a rattrapés. On n'est plus humain.
Immersion en milieu radioactif. Territoire où la catastrophe semble permanente.
Le nucléaire ne peut se développer que s'il est dirigé par des gens non consciencieux, incompétents et irresponsables.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur lafabriquedeloubli.noblog.org.
Radio.